Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
Madeleine, puis l'autre côté, est avec nous, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut, Madeleine.
Allô, Geneviève.
Écoute, t'as écrit un texte aujourd'hui que j'ai lu, qui fait beaucoup, beaucoup réagir, puis tu y as fait un peu allusion la semaine dernière. T'as pas été contente quand le premier ministre Legault s'est servi de sa tribune, si on veut, pour interpeller les jeunes, leur faire un peu peur. Tu me disais, moi, j'ai pas aimé ça qu'ils me parlent comme ça, ça m'a créé de l'anxiété. Je comprenais pas vraiment. Je me disais, ben écoute, quand même, c'est pas le rôle du premier ministre de dorer de la pilule et de faire des accroire au monde. Mais là, tu nous arrives avec un texte où tu dis, en écoute, à un reportage qui a été fait en fin de semaine par le bureau d'enquête, je crois. À tape là, ce qu'il nous a dit, M. Legault, c'est peut-être pas si juste que ça.
C'est ça, on en parlait ensemble mardi, là, ouais. Suite à la conférence de presse qu'il y a eu à 13h, comme une heure après, on en parlait. Puis c'est ça que je disais, là, que moi, ça m'avait comme créé de l'angoisse. Puis même ce soir-là, j'avais eu de la misère à dormir. En gros, ce qu'il disait, M. Legault, dans la conférence de presse de mardi, il disait le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Fait que là, moi, je l'ai cru vraiment là, quand il a dit ça. Puis
il avait raison.
Ben c'est ça, tu sais, moi je veux croire là mon premier ministre, puis quand il me parle comme ça, ben c'est sûr que ça me saisit. Et puis là samedi, j'ouvre le journal, qu'est-ce que je vois sur internet? Je vois le bureau d'enquête a sorti une enquête et ils disent dans le fond que c'est pas vraiment vrai qu'il y a plus de jeunes à l'hôpital. Au contraire, si on compare avec le pic de la première vague, c'est-à-dire dans la semaine du 19 avril 2020, ben on peut comprendre que des personnes en bas de 60 ans qui sont hospitalisées, il y en a moins qui sont entrées dans la à l'hôpital dans la semaine dernière. Il y a moins de gens de moins de 60 ans qui sont entrés à l'hôpital que la semaine du 19 avril 2020. Fait que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai eu peur toute la semaine, j'ai eu de la misère à dormir, puis finalement, c'est comme pas vrai ce que mon premier ministre m'a dit. Ben j'ai été bien déçue. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit un article là-dessus aujourd'hui.
Oui, puis en même temps, c'est des chiffres, je vais pas dire qu'ils ont été manipulés, là, mais évidemment, la marge est vraiment pas si grande que ça, pas assez pour dire qu'il y en a donc plus. Je pense que le message, c'était de dire la COVID, ça peut aussi toucher les jeunes adultes. Il y a des jeunes adultes, puis des adultes de mon âge, là, c'est-à-dire, moi, j'ai 38 ans. On a vu des cas où ce sont des gens de 40 ans qui se ramassent à l'hôpital, puis tu sais, c'est tout le temps dans cette idée, Madeleine, d'aller rechercher ces gens-là, parce qu'on ne répétera jamais assez, là, lors de la première vague, on nous a vendu la COVID comme une maladie de vieux. Fait qu'en quelque part, on se sentait un peu invincible. Puis là, je pense que le gouvernement essaie d'aller rechercher la population, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est clair que quand on fait une sortie comme ça, puis qu'après ça, dans les médias, on est capable d'aller chercher les chiffres, puis de dire, ben écoutez, là, c'est pas nécessairement ça la situation, puis que ça fait peur aux gens. À mon sens, c'est très, très problématique, là. Parce qu'on parle d'un bris de confiance envers le gouvernement. Il y a des gens qui font le calembour, là. Le gouvernement, ben là, faudrait pas que le gouvernement se mette à nous mentir.
Non, moi, ça a vraiment brisé de quoi, là, parce que moi, je suis très assidue, j'écoute les conférences de presse, je crois le gouvernement depuis le début. Puis là, ben, je vais pas tomber complotiste ni rien, mais ça a brisé une espèce de lien de confiance que j'avais bâti avec le gouvernement, M. Legault, tout au long de la pandémie. Et moi, je veux pas me mettre la tête dans le sable, Geneviève. Moi, je veux connaître les vraies choses. Je dis pas que le gouvernement devrait pas nous faire peur.
Ouais.
Je pense qu'il devrait pas mousser comme notre angoisse, ou du moins réactiver notre angoisse qui est très présente depuis le début de la pandémie, en disant en nommant des statistiques, en disant des faits qui sont pas solides, qui sont comme trompeurs.
Ouais, puis c'est quand même assez grave, là. Je sais pas si M. Legault va réagir à l'article du Journal de Montréal, mais quand même, est-ce que ça... Mettons, Madeleine, on spécule, là, on a vu ça quand même à quelques reprises pendant la pandémie, là, certains rapports, certains chiffres qui étaient pas nécessairement connus par M. Legault, qui émanaient de la santé publique. T'sais, tu vois où je veux en venir, là, on peut donner l'exemple des restaurants là, où M. Arruda avait pas fait des recommandations, M. Legault est allé dans un autre sens. Est-ce que ça se peut que M. Legault n'ait pas eu accès à ces chiffres-là ou ait eu accès à une autre information? Moi, je ne peux pas croire que quand tu es premier ministre du Québec et que tu fais, si on veut, ta communication autour de la pandémie sur la transparence, là, mise beaucoup là-dessus, mise beaucoup sur le fait qu'il est vrai, qu'il n'a pas peur de se tromper. Je peux pas croire que sciemment, il nous a menti. C'est-tu moi qui est naïf, mais j'ai de la misère à concevoir ça venant d'un premier ministre comme François Legault.
Ben moi, j'ai le goût un peu de me mettre dans sa peau. Là, je vais faire l'exercice avec vous. Gaston se met dans la peau de François Legault, là, ça peut être quand même difficile, c'est certain, de faire des conférences de presse comme plusieurs fois par semaine, de retenir comme beaucoup d'informations. Oui, il y a une feuille là, sur laquelle est sûrement griffonnée quelques statistiques.
Une coupe de post-it.
Vous l'aider. Une coupe de post-it, mais ça peut être quand même difficile de bien intégrer les statistiques, de les comprendre, puis après ça, de les vulgariser comme à la population. Fait qu'il peut se tromper. Mais après ça, son devoir, c'est vraiment de nous reparler, de réajuster les faits, de rectifier le tir aussi. C'est très important. Ouais. Puis, on ne dit pas des grosses choses comme ça si on n'est pas certain, si on n'est pas capable de bien l'expliquer. Parce que là, c'était très trompeur ce qu'elle dit en conférence de presse. Puis, je suis sûre que je ne suis pas la seule, Geneviève.
Mais il va se faire questionner là-dessus, Madeleine, demain au point de presse Big Time. Là, moi, si j'étais lui, je commencerais direct par ça. Clarifier la situation, s'il y en a un, là, je sais pas si on a confirmé un point de presse demain. Habituellement, c'est le mardi, le jeudi. Si j'étais lui, je sortirais. Il le fait sur sa page Facebook là, quand il y avait une certaine confusion sur le port du masque à l'extérieur. À mon sens, ça, c'est beaucoup plus grave. T'sais, à mon sens, si la perception dans la population, c'est que le gouvernement nous arrive avec des chiffres qui sont trompeurs ou qui sont pas représentatifs de ce qui se passe réellement dans nos hôpitaux, moi, j'étais à sa place, je me dépêcherais de rectifier la situation. Bon, ça, c'est pour ton texte là, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal. C'est très, très intéressant. Allez voir ça, Journal de Montréal, Journal de Québec. Mais tu voulais qu'on revienne aussi sur le texte du docteur Béliveau, je crois, un texte qui te fait du bien sur les façons dont on pourrait rester optimiste.
Oui, comme je t'ai dit toute la semaine à cause de la conférence de presse de mardi, j'étais comme stressée. Fait qu'en lisant ça hier soir, le texte de Richard Béliveau qui s'intitule « Combat contre la COVID-19, quatre raisons de rester optimiste », ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a comme détendue. Puis c'est vrai, je trouve qu'on voit toujours le verre d'eau un peu à moitié vide concernant la pandémie. Là, on regarde les nouvelles, on regarde les conférences de presse, on nous dit ce qui va pas bien. Tant mieux, tu sais, oui, il faut connaître ce qui va pas bien, mais aussi il y a des choses qui vont bien, tu sais, par exemple le vaccin, ben ça va bien là au Québec, on commence à être pas mal vaccinés. Je pense qu'il y a une personne sur quatre d'immunisée, c'est ce que le docteur disait dans son texte que j'ai lu hier soir. On est au sixième rang mondial, on devance les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud. Fait que ça va bien.
C'est clair
là,
qu'on est meilleur
vaccin.
Que le Brésil, tu sais, veux dire?
Ben, non, c'est certain, là. Je veux dire, quand on se compare, on se console, un peu comme.
Moi, je suis tellement plus là, Madeleine, là. Puis j'aimerais ça partager ton enthousiasme, là. Je pense que je vais aller lire le docteur Béliveau. Je l'ai pas lu encore, mais, tu sais, je disais au début de l'émission que samedi, j'avais comme un peu pogné le fond du baril pandémique, là. Je trouvais ça très, très dur, le couvre-feu à 8h. Je voyais tout en noir, là. Je regardais ce qui se passait en Ontario, puis je me disais, aïe, tu sais, c'est la fin du monde, puis on s'en rend pas compte. J'étais rendue là dans ma tête, sans niaiser.
On prend, là, on a tout atteint le fond du baril à différents points de la pandémie.
Ouais.
Là, bravo.
Moi, c'était samedi soir. J'ai bu un peu de vodka. Ça n'a rien arrangé. Je vous le dis, ça n'a rien arrangé. Faites pas ça.
Non, c'est ça. Des fois, ça empire même. Mais je te conseille vraiment cet article-là parce que vraiment, ça met un bon, puis c'est bien expliqué. On comprend bien. Tu sais, d'habitude, des fois, des articles comme scientifiques qui nous expliquent pourquoi le vaccin est bien, tout ça. Bien, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Puis lui, il va le vraiment, vraiment bien vulgariser.
Parce qu'il nous explique là-dedans que le vaccin, c'est pas dangereux, c'est ça?
Ben oui, il nous explique. Il fait comme pas mal le tour de tout ce qui concerne le vaccin. Il parle des thromboses, par exemple, d'AstraZeneca, là, qui font peur. Puis il compare ça avec un voyage en avion de plus de 4 heures où le risque est vraiment, vraiment plus grand. Là, on parle de 1 sur 7 000 si on fait un voyage d'avion de 4 heures.
Ouais, mais tu sais, il y a des gens anxieux qui pensent juste à la fois où tu vois le crash d'avion. Là, ça, c'est moi. Puis j'ai pas cette peur-là par rapport au vaccin. Là, moi, je continue à dire que c'est notre meilleure arme si on veut justement sortir du tunnel pandémique. Madeleine, puis l'autre côté, merci beaucoup.
À demain.
À demain.